Berthaud. Tout de suite sur Neuve et jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Votre invité Emmanuel dans nos studios, Marie-France Berthaud.
Et oui, on est heureux. Ça fait un moment qu'on a reçu Marie-France Berthaud, notre passionnée de cuisine, de littérature. Marie-France, alors blogueuse, romancière, gastronome, évidemment. Tout cela depuis Soulan, avec deux nouveaux livres parus en 2021. D'abord, on va parler du tourbillon des illusions, évidemment, saga romanesque. Et puis, le petit traité du pâté, après le petit traité du haricot. Eh bien, nouvelle édition en ce mois de septembre d'ailleurs pour sa parution. Donc c'est un peu une émission gourmande. Bonjour Marie-France.
Bonjour Emmanuel.
Alors on vous suit depuis des années maintenant.
Oui.
Je vois vos passions qui ont pris le dessus dans votre vie. On peut parler de reconversion qui a été complètement réussie.
Ah oui, totalement. Oui, j'ai vraiment là changé de vie et je vis de ma passion. C'est vraiment génial.
De vos passions.
De mes passions. Oui, voilà. C'est l'écriture qui a pris le pas et puis l'écriture à la fois romancière et puis culinaire. Donc en fait, oui, ces deux passions-là sont réunies et pour le meilleur.
Ça avait démarré à l'écriture avec le blog Une cuillerée pour papa,
oui.
Toujours actif. On y retrouve alors plein de recettes, des conseils, plein de bonnes adresses.
Oui, alors c'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps pour l'alimenter que les premières années, mais il est toujours bien présent et je veux vraiment le maintenir. Mais c'est vrai que pendant le confinement, j'avais fait une liste des producteurs qui faisaient de la vente directe, ou des agriculteurs, donc des ventes à la ferme, des ventes chez les producteurs. Et j'ai envie maintenant d'accentuer un petit peu plus ce côté producteur et à l'avenir de proposer des recettes, mais aussi de mettre en avant des producteurs.
Les bonnes adresses, donc.
Les bonnes adresses.
Et
oui.
Puis les recettes. Alors la dernière qui est en une, c'est confiture et gelée de fleurs comestibles. Vous l'avez réalisé, dites-vous, pour le tournage d'un JT de TF1. Vous êtes aussi une blogueuse médiatique.
Et oui, absolument. TF1 donc m'avait contacté. C'était une semaine spéciale confiture donc aux fleurs comestibles. Puis comme j'ai mon amie Pauline Acquex qui est productrice de fleurs comestibles, c'était vraiment la thématique m'a tout de suite réjouie. Et donc je leur ai créé des gelées aux fleurs.
Et donc l'écriture, bah, ça fait partie vraiment de votre vie. Hein. On va parler du petit traité du pâté, mais d'abord, vous êtes aussi Marie-France Desmarais, romancière populaire aussi, avec notamment Les Amants de la Rivière Rouge. Et la suite est enfin parue.
Oui, enfin, parce que c'est vrai que ça a été long après le premier Les Amants de la Rivière Rouge. C'est vrai que le Covid a freiné la sortie du deuxième. Il y a eu le grand écart entre le premier et le deuxième, hein, qui était pourtant écrit. Donc voilà, il est bien sorti donc en exclusivité avant-première chez France Loisirs au mois de juin. Et puis, bah, il a très très bien tourné, il a vraiment cartonné et même il s'est retrouvé
épuisé,
en rupture.
Hein, ouais.
Voilà. Donc ils ont relancé là une impression. Donc il est à nouveau disponible jusqu'à la fin de l'année. Et puis en janvier, il va sortir dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies de
avec
France.
Avec un autre éditeur.
Voilà, avec les presses de la Cité, en fait. Parce que c'est donc le principe, c'est qu'il sort en avant-première France Loisirs, et puis après aux presses de la Cité, donc dans toutes les librairies à la suite de France Loisirs.
Votre fierté.
Ah oui, 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 c'est vrai, parce que je n'aurais pas imaginé qu'il ait autant de succès, voilà, exactement, et à tel point d'ailleurs qu'il va y en avoir un troisième.
Ah, c'est de la bonne nouvelle, et toujours la suite. Vraiment, on suit les personnages ?
Oui, alors on suit les personnages, donc en fait ça va devenir finalement ce que j'appelle un triptyque, c'est-à-dire trois personnages féminins sur trois époques différentes. Donc on avait la pionnière Louise, qui au début des années 20 a quitté la Vendée, donc les marais du nord-ouest vendéen pour partir au Canada. En étant enceinte de sa petite fille Rose. Le deuxième qui sort là, donc c'est Rose qui a grandi. Et là, on va suivre Rose, qui est une jeune fille passionnée et battante pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc du point de vue canadien, parce que Rose est installée au Canada, mais aussi du point de vue vendéen, puisqu'il y a toujours ce retour aux sources qui est indispensable. Et puis il y a des petits clins d'œil chalandais aussi, avec notamment la grand-mère de Madame Després, Rose Després, la maison de la presse de Chaland pour les Chalandais.
Donc, histoire vraie,
Oui, je parle de Rose Després à un moment donné, à la fin du livre. Donc, je laisse le lecteur découvrir de quelle manière. Oui, j'ai fait des recherches. J'avais acheté, pour Chaland, j'avais acheté la revue de l'histoire, de la Société d'histoire chalandaise. Ils ont des revues qui sont vraiment hyper bien faites. Et là, ils avaient une revue, un numéro consacré à la résistance et consacré à la Seconde Guerre mondiale dans le secteur de Chaland, et je m'y suis appuyée.
Donc on va découvrir ça effectivement, ou peut-être certains l'ont déjà découvert, dans le tourbillon des illusions. Et puis aujourd'hui, c'est aussi Marie-France Berthaud, tout simplement, que l'on reçoit, auteur d'un nouveau petit traité. On vous avait reçu pour le petit traité du haricot, je m'en souviens bien. Et on retrouve là un joli, joli petit livre, c'est le petit traité du pâté. Alors j'imagine que pour un traité, il y a beaucoup, beaucoup de travail de recherche aussi.
Oui, alors finalement, c'est ce que j'aime, parce qu'après avoir fait des livres de cuisine, avec recettes, photos, on va dire des livres de recettes traditionnelles vendéennes. Là, de passer à cette forme d'édition culinaire, pour moi, j'adore, parce que ça me permet d'allier mon plaisir d'écrire, en fait. Et ça demande, c'est vrai, beaucoup de recherches, parce que c'est un livre qui mêle à la fois l'histoire du produit, donc toutes les recherches historiques, anecdotiques sur le pâté. Donc je remonte jusqu'au Moyen-Âge, même parfois l'Antiquité, avec des anecdotes que j'ai retrouvé, que j'ai déniché, qui sont souvent parfois drôles, parfois moins. Voilà, qui surprennent, et on apprend plein de choses finalement. Et puis, ce sont des recettes aussi du monde entier, donc je reste pas dans mon univers vendéen, même s'il y a quelques recettes poitevines.
On va voir aussi local.
Voilà,
très local.
Ouais, tout à fait.
Mais effectivement, c'est un traité global d'histoire. Comment est-ce qu'on recherche sur le pâté, quelles ont été vos sources?
Alors j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai des amis qui m'ont ouvert leur bibliothèque, j'ai acheté moi-même pas mal d'ouvrages. À chaque fois j'ai déjà une pièce pleine de livres, mais alors,
on imagine.
J'arrête pas d'en acheter, mais c'est beaucoup de consultations, oui, d'ouvrages. C'est le pâté dans son sens large, donc en fait c'est pâté, les terrines, les rillettes également, et puis les tourtes. Donc pour les tourtes, par exemple, j'ai beaucoup de tourtes anglo-saxonnes, ce qu'on appelle les pies, avec deux abesses de pâte qui sont garnies selon les recettes. Bon, j'ai une tourte québécoise au bleuet.
Qu'aurait pu manger rose.
Qu'aurait pu manger rose, exactement. Donc, c'est vraiment le pâté dans son sens très large.
Et donc, on voit effectivement qu'on doit remonter le temps de manière assez importante. Ça remonte à de nombreuses, nombreuses années, siècles, le pâté.
Oui, parce que au Moyen-Âge, par exemple, on retrouvait sur les tables des seigneurs, c'était des tables exubérantes d'ailleurs, ils avaient des pâtés en croûte, où il y avait des pâtés de pan, des pâtés de cerf, enfin bon, c'était inimaginable.
Comme on peut l'imaginer les aujourd'hui, banquets, les images.
Et en plus, il y avait c'était très, très scénarisé, avec, ils ouvraient le pâté, et d'un seul coup, il y avait un nain qui sortait, qui jaillissait du pâté. Enfin ouais. Bon, c'était une époque de folie.
Oui, c'est notre monde.
Donc on fait des pâtés là plus simples. Hein.
Et quelque part, tant mieux si c'est fini.
Voilà, exactement.
En tout cas, le pâté, c'est un mets consensuel. Voilà, c'est quelque chose que vous précisez. Hein.
Oui, c'est pour ça que j'ai aimé cette thématique, parce que moi, c'est vrai que avec mes parents, on allait pique-niquer l'été à Noirmoutier ou à Saint-Jean-de-Mont. Et c'est vrai que maman faisait souvent, elle faisait sa terrine de pâté de campagne, que j'ai mis la recette familiale dans le livre. Et c'est vrai que c'est un peu le plat de famille, hein, le pâté, c'est le plat de pique-nique, c'est le plat de famille. On met la terrine, moi je trouve ça chouette, c'est ces plats qu'on met au milieu de la table, chacun se sert avec un bon pain tout chaud.
On a l'image, on a un
petits cornichons.
Les cornichons, j'allais le dire, c'est obligatoire.
Ouais, voilà, les cornichons, exactement.
Alors qu'est-ce qu'on apprend avec vous aussi? Vous avez plein de recettes qui vous ont été livrées, certaines même exceptionnellement pour ce livre. On va notamment parler de Sylvain Bourbon tout à l'heure. Oui. On fait une petite pause, on en parle dans 3 minutes.
Oui,
je vous
plaisir.
Coupe.
À tout de suite, ce sera juste après le titre, le duo Sia et Amir sur Neuve. Get a girl, get a boy. One plus one. Take a mic down to the shore. One plus one. Give you all and give some more. One plus one. Let the music free your soul.
Yeah, bunks and rungs.
Swing with me through the light. Home every just one night. Home every
just one night. Oh, we live for the beat. Baby, you're all I need. Baby, you're all I need.
Tous les sons qui vont éclore.
One blast, one.
De nos âmes multicolores.
One blast, one.
Face à l'ironie du sort.
Si à deux on est plus fort,
one plus one.
Et si nos yeux brillent encore,
one plus one.
Je crois bien que je veux t'avoir,
one plus one.
Je suis sûr que je veux t'avoir,
one plus one.
Toutes les coordonnées de mon cœur sont données, de l'amour sont données. La nuit va s'en aller. Me laisse pas m'en aller, me laisse pas m'en aller.
Oh, so I'm taking you away. One blast, one, every day's a holiday. One blast, one, move your body, feel the sway. Grab someone, every day's a holiday. One blast, one, every day's a holiday. Let the beat take you away, let the beat take you away.
Yamir sur Nova, 12h50, la suite est jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Aujourd'hui, on parle livre et cuisine avec votre invité Emmanuel, Marie-France Berthaud.
Oui, et avec samedi, une séance de dédicace à l'Espace des Prés, librairie et maison de la presse de Chalons, avec plusieurs de vos livres, hein, et le plus récent, donc le petit traité du pâté. Les séances de dédicace, Marie-France, les salons du livre, on vous y sait présente, hein, en Vendée notamment, et ailleurs, hein, sur de nombreux rendez-vous. C'est important, ça vous plaît?
Oh oui, moi j'adore aller. C'est une prolongation, hein, de l'écriture. Et c'est important, j'aime ça, de toute façon j'y vais, c'est vrai, par goût. J'adore aller dans les boutiques faire des dédicaces, et puis sur les salons ça permet de rencontrer les lecteurs, hein. Et y a des échanges fabuleux, on fait des rencontres, j'ai fait des amitiés, enfin c'est, oui, c'est vraiment formidable, hein.
C'est
indispensable, hein.
Vous avez vu, vous avez acquis une vraie notoriété, hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
On vous connaît de plus en plus, et puis vous allez présenter ce petit traité du pâté. Alors on y revient parce que c'est passionnant. L'idée d'y consacrer un livre est venue donc avant le confinement, c'est ça?
Pendant le confinement? Oui, un petit peu avant le confinement. J'avais donc soumis l'idée du pâté à l'éditeur qui a tout de suite aimé cette thématique, donc il l'a accepté. Et puis le confinement, oui, est venu. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément la tête à écrire. Je me suis consacrée à d'autres choses. J'ai un peu c'est moi qui ai pris du retard du coup dans l'écriture, mais la thématique, oui, tout de suite j'ai été emballée par cette thématique là parce qu'en fait le pâté, on s'aperçoit quand j'en parle que c'est vraiment un plat qui plaît à tout le monde, hein. Des gens tout de suite pâté, ils ont l'image dans la tête et l'image gourmande.
Mais
en
oui, c'est
temps.
Ça, et on a tous des souvenirs, comme vous le disiez, ouais. D'un pique-nique, d'un repas du ouais. Dimanche avec plein de pâté sur la table. On retrouve vraiment se mettre dans la tradition culinaire, vous l'avez dit, depuis des siècles dans plein de pays différents. Vous nous parlez aussi de ce mets qu'on peut manger à toute heure, par exemple certains l'adorent le matin avec le café.
Oui, dans, avec
de la tartine,
oui, oui, sur la tartine ou de fromage
ou de pâté,
camembert aussi. Ou de pâté qu'on trempe dans le café. Effectivement, oui, dans les campagnes, ça se faisait beaucoup, ça. Ah ouais. Je connais
salé,
même en Vendée, je connais pas mal de personnes dans les anciens qui faisaient ça, oui, qui trempaient la tartine, la tranche de pain de pain de campagne, le pain de 4 dans le café du matin.
Et puis l'aspect donc généreux, convivial, rassembleur, voilà, c'est des mots que vous utilisez.
C'est ça, en fait. Le pâté, oui. À partir du moment où on le sert dans une grande terrine, quand j'ai écrit le livre, j'ai invité l'été dernier, j'ai fait des essais, j'avais invité des amis de Belgique, j'ai fait un repas tout pâté, en fait. Et j'ai testé avec eux comme ça les recettes, et j'avais acheté, en plus, je me suis amusée à acheter des terrines chez des brocanteurs pour avoir une collection de terrines,
super,
j'adore.
Hein. Ouais.
Et donc, j'ai présenté ça sur la table, toutes les terrines comme ça, et c'est généreux, effectivement, c'est rassembleur,
et c'est convivial,
et chacun se sert, c'est ouais.
Et puis on découvre, donc en fait c'est un livre de recettes aussi, on a plein de recettes fabuleuses présentées, elles sont très nombreuses, les variétés de pâté aussi, vous nous rappelez, voilà, le pâté c'est pas uniquement
non, c'est pas que le pâté charcutier, parce qu'en fait souvent on me dit, oui mais alors le pâté c'est compliqué à faire, alors le pâté charcutier, enfin parce que les gens pensent au pâté charcutier, il faut hacher les viandes, il y a tout un temps de préparation, les faire, soit éventuellement les faire mariner, mettre des épices, puis bon, autrefois dans les campagnes, souvent on amenait le pâté aussi à cuire, un peu comme la brioche, on l'amenait chez le boulanger.
D'accord.
Ça se pratiquait aussi,
ouais,
autrefois.
C'était un collectif aussi.
C'était collectif. Il y avait ce côté collectif, oui. Donc, mais j'ai voulu que ce ne soit pas que des pâtés charcutiers, pour que ce soit vraiment le pâté pour tous les goûts, pour les amateurs. Parce que, bon, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de manger des légumes, pas forcément de viande. Et puis, les pâtés, de toute façon, c'est un terme générique. Donc, j'ai des pâtés j'ai par exemple un petit pâté aux oignons, aux oignons confits que je sers à l'apéritif.
Bon.
J'ai aussi un pâté de feta aux algues, pareil là aussi, qui se sert en tartinade. Alors celui-là, je l'ai testé donc dans des dédicaces dans une médiathèque récemment à Roche-sur-Vière, et tout le monde a adoré ce pâté aux algues.
Parce que vous venez à chaque
fois. Et c'est tout simple à faire.
Vous venez avec des pâtés à chaque dédicace, hein?
Pas systématiquement, mais généralement quand c'est en petit groupe, avec le Covid, c'est plus compliqué. Sur des gros salons, c'est compliqué à gérer.
Mais à Chaland,
par exemple.
Un Chaland, pas sûr, c'était pas prévu.
Non, pourquoi pas. Après, c'est vrai que le Covid ne facilite pas les choses. Mmh. Et puis, il y a ce côté conservation, quoi, pour garder au frais. Sur une journée entière, c'est compliqué. Sur une journée entière.
Mais en vous écoutant, effectivement, on n'a pas défini ce qu'est un pâté. Il y a une définition particulière?
Alors, le pâté, au Moyen-Âge, c'était de la viande hachée. Au départ, c'était de la viande hachée. Ensuite, ce pâté a été agrémenté d'une croûte épaisse. Après le Moyen-Âge, on a commencé à trouver des croûtes épaisses qui permettaient de le conserver, en fait. Alors, c'était une croûte qui n'était pas forcément mangeable. Elle était, oui, très très épaisse pour pouvoir le conserver.
On mangeait ce qu'il y avait dedans.
Voilà,
en fait.
On mangeait ce qu'il y avait dedans, ça permettait de le manger en même temps avec les mains. Et puis après la Renaissance, est arrivé le couteau. Donc les habitudes de consommation ont changé. On s'est mis à faire des pâtes qui étaient des pâtés en croûte, mais avec des pâtes qui étaient beaucoup plus fines et qui justement se mangeaient, se dégustaient. Mais donc il y a le pâté en croûte qui se fait donc avec une croûte, et puis il y a les terrines, donc les pâtés qui se font dans des terrines. Donc les terrines, c'est quand on parle de terrines, c'est le pâté qui c'est à la fois le contenant et le contenu.
D'accord. Et donc
et puis il y a les tourtes aussi.
Ah oui, mais ce que vous dites.
Et puis il y a les tourtes.
Les pies. On retrouve donc plein de recettes. Certaines sont traditionnelles, elles vous ont été transmises. D'autres, vous les avez complètement imaginées. Et puis dans les transmissions, il y a vraiment des exclusivités. Hein, quand je vois Sylvain Bourmeau qui donc a créé une recette à votre demande.
Ouais, ça a été super sympa de sa part. Je lui avais demandé ça. Ben, il me l'a fait pendant le confinement, justement. Son restaurant était fermé. Et je lui avais demandé, on se connaît bien avec Sylvain, je lui avais demandé s'il voulait me faire une recette. Et il m'a imaginé, il l'a appelé le pâté coin-coin iodé.
D'accord.
Donc c'est un pâté en croûte au canard, et il vient juste donc et il va le mettre à la carte. Il l'a testé la semaine dernière, donc maintenant, ça va être son pâté signature qui est à la carte de son restaurant.
Le Caillebotte à Chaland.
Et puis j'ai aussi
un pâté vegan.
Voilà, incroyable. C'est une amie aussi, donc Anne, qui fait des sushis, qui est artisan sushis à Bretignolles, qui là m'a fait un pâté vegan.
On peut dire avec quels aliments vegan?
Alors il y a du chou fermenté, il y a du miso, il y a de la pâte de sésame.
Donc un peu asiatique. Hein.
Très asiatique, parce que c'est vrai que c'est sa signature à elle aussi. Oui.
Et si je vous demande alors une recette fétiche peut-être de votre part, d'ailleurs une création de votre part?
Alors une création que je me suis amusée à faire vraiment pas à pas, à chaque fois que je faisais la recette, je goûtais et j'écrivais au fur et à mesure ma recette, c'est un pâté de bernique. Moi j'adore tout ce qui est fruits de mer, coquillages, poissons. Donc je me suis dit, je vais faire un pâté de bernique, et j'avais vu sur internet où ils se vendaient des pâtés de bernique, mais qui avec un mélange moitié-moitié de porc, et je trouve que le porc enlève tout le côté iodé, il amène du gras, c'est vrai, mais il enlève tout ce goût de la bernique. Donc là je me suis dit, je vais faire un pâté tout bernique. Donc le plus long c'est de les décoquiller, et puis après donc je mixe tout ça avec des épices, et puis la petite touche c'est un whisky tourbé.
C'est ça.
Donc on a à la fois le goût de la tourbe. D'accord. Et puis du whisky, et puis le côté iodé de la bernique, et qui est vraiment, enfin j'adore, avec des épices, et je suis très contente du résultat. On le sert à l'apéritif.
Et la recette est dans le livre.
Ah
mais c'est une super nouvelle. Donc voilà, on peut finir avec les indications un peu pratiques. L'éditeur, c'est celui déjà du petit traité des haricots.
Alors le petit traité du haricot, c'est donc et du pâté, c'est donc les éditions Le Sureau. C'est une maison d'édition qui est à Gap et qui est éditée nationalement, et qui a toute une gamme, toute une collection de petits traités avec plein de thématiques.
Et on vous retrouve donc samedi à Chaland à l'Espace des Prés. Vous y serez de quelle heure à quelle heure?
Alors j'y suis donc pour à partir de 10h30 jusqu'à 12h30, et de 14h30 à 18h à peu près, 18h-18h30, j'ai pas trop d'heures pour la fin, donc il y a du monde, je resterai. Donc à la fois pour le tourbillon des illusions, parce que c'est ça l'exclusivité France Loisirs, à l'Espace France Loisirs, et puis en même temps avec les petits traités.
Et puis peut-être d'anciens livres aussi.
Avec le premier tome, Les Amants de la Rivière Rouge, pour le roman. Et puis le petit traité du haricot aussi.
Voilà, qui seront présents. Donc on vient discuter, vous l'avez vu, et puis peut-être que vous aurez des gens qui vont vous donner aussi des nouveaux conseils.
Oui, j'aime bien. Je prends toutes les idées, toutes les recettes.
En tout cas, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Moi, j'ai envie de pâté de cornichons. Là, je sais pas vous, Thierry.
J'en ai.
C'est vrai?
Oui.
Bon, on va y manger.
Et vous avez la baguette chaude?
Presque.
Presque, la baguette.
Elle va tout piquer, c'est clair.
Bon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Marie-France. On va retrouver l'émission, évidemment, en podcast dans 3 minutes. Et puis demain, on va encore parler littérature avec une auditrice aussi qui nous a écrit, qui s'appelle Florence Legueux, qui est romancière. Elle a écrit un livre, Perversion à la Une. Elle lance aussi une cagnotte parce qu'elle a d'autres livres qui sont déjà prêts à sortir.
Demain à 12h35. Merci Marie-France, à bientôt.
Merci à vous.
Bonne continuation et bonne app, c'est le moins que l'on puisse dire, à 13h. À demain Emma.
À demain Thierry.
L'émission en podcast très vite sur Neuf, également très vite après les infos. Il y a Florent Pagny, vous écouterez Texas, et puis le tout dernier Coldplay avec BTS sur Neuf. Bon après-midi, il est 13h.